En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain, où il dépensa sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, cet évangile est tout particulier. Il est long et précis. Dieu nous parle. Jésus est la parole du Père. Ainsi donc, tout ce qui est dit nous révèle la véritable nature de Dieu. Et si l'on lit bien, et si l'on comprend bien, à la lumière de l'Esprit-Saint, on pourra dénouer ce qui arrive dans nos vies, mais ce qui arrive aussi à tout moment et en tout temps dans nos sociétés. L'être humain sait très bien qu'il a des devoirs. L'être humain est un être spirituel. Il a de l'intelligence. Il a de la volonté. Nous savons très bien que nous devons suivre la vérité. Même l'être le plus grossier ou celui qui aurait perdu la raison a en lui-même, par son âme, la capacité encore de choisir. Bien sûr, du point de vue du droit pénal, il y a une certaine irresponsabilité par rapport à des actes graves que pose quelqu'un qui a perdu la raison et un jugement droit. Mais il lui reste encore du jugement. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas liés à un instinct que nous devons suivre sans comprendre, sans tirer du réel, par abstraction, tirer du réel ce que nous devons comprendre et aimer. Nous savons bien ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mauvais, et on le voit chez les petits-enfants. Parce que les petits-enfants n'ont pas de frein. Ils disent tout ce qu'ils pensent. Et combien de fois ils désirent ceci, ils le veulent, ou ils ne le désirent pas, ils disent non. Ou alors, lorsqu'ils comprennent ce à quoi ils ont droit, ou ils peuvent avoir droit, ils vont vous dire « c'est juste, c'est pas juste ». C'est l'âme humaine à l'état cristallin. Ensuite, on se complique, et l'adulte réfléchit avant de parler, et il calcule. Mais l'être humain sait, de manière confuse chez certains, de matière grossière chez d'autres, ou même de manière très éloignée pour ceux qui sont atteints d'une psychose, d'une névrose profonde, mais nous savons où est notre devoir. Alors, on peut répondre par de la violence, on peut répondre par de l'insolence. Cet enfant avait le droit à un héritage. Peut-être aurait-il dû attendre la mort de son père pour avoir la plus grande part, mais il a demandé un acompte sur l'héritage de son père. Il a demandé à être aidé. Et nous voyons bien, même dans le droit français actuel, que les enfants ont un droit à être aidés pour s'installer d'une manière ou d'une autre. Les petits-enfants et les plus grands-enfants et les adolescents font leurs études. Mais il est des pays où, lorsque on a donné une éducation suffisante, on doit travailler. Ici, cet enfant, ce fils, veut de l'argent. Il veut tout de suite son indépendance. Et c'est nous, bien sûr. L'être humain, par rapport à Dieu, on veut tout de suite arriver à l'âge adulte, à l'âge d'une certaine autonomie. Et le bon Dieu nous laisse cette autonomie et cette liberté. Avec la limite de la vérité et de la bonté, mais il nous laisse la liberté. Nous pouvons choisir, nous avons une conscience. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette parabole, le Père donne l'argent. Mais c'est redoutable d'avoir cette autonomie et cette liberté d'avoir cet argent à dépenser. Parce que l'on voit bien que nous sommes faibles. Et si vous donniez beaucoup d'argent à vos enfants, mais ils seraient pourris, comme ceux à qui on donne beaucoup d'argent. Oui, nous savons bien qu'il y a des limites, mais pas des limites qui soient injustes, mais qui sont vraies. De la même manière, si vous voulez manger du sable, eh bien, à un moment donné, vous allez mourir. Je prends exprès un exemple idiot. Si je vous disais, si vous voulez boire du curare comme on boit du café, vous le ferez qu'une fois. Si vous voulez mettre du sable dans une machine à laver, elle va se détruire, elle va se rayer et elle ne fonctionnera plus. Eh bien, les 10 commandements sont notre mode d'emploi. Et nous savons bien que nous devons les suivre. Alors, je pourrais vous parler de la sexualité, puisque c'est aussi un thème de cette parabole. Cet homme se plonge dans les plaisirs. Et qu'est-ce qu'on donne aux jeunes actuellement ? Ben les plaisirs à un niveau inouï, au point même que les plus adultes sont touchés, parce que notre instinct animal, pour le coup, est tellement fort que notre intelligence et notre volonté a du mal à lutter. C'est comme la gourmandise au sens simple du terme, lorsqu'on a faim, lorsqu'on veut manger, mais on veut manger ce qui est plus agréable à notre bouche. On ne va pas prendre des endives amères tous les jours. Il y a ceux qui mangent le jambon avant l'endive, puis ou l'endive avant le jambon, ou l'endive et le jambon en même temps. Mais tout cela, voyez-vous, devient très sérieux lorsqu'il s'agit du salut de notre âme. Lorsqu'il s'agit de l'amour mutuel, lorsqu'il s'agit de la paix d'un foyer, d'une famille, l'amour entre un homme et une femme, la paix entre les enfants et leurs parents, entre les frères et les sœurs, avec nos voisins, avec les pays voisins. Et l'on voit bien que Dieu a fait cette nature humaine et a pris de grands risques avec cette liberté. Et il y a une justice, et il y a des péchés. Le péché, c'est tomber, au sens propre, peccatum, c'est tomber par terre, ou tomber dans un trou. Ce n'est pas agréable de trébucher et de tomber. Eh bien, l'être humain, lui, sur le chemin du bien, s'il se détourne ou s'il tombe dans un trou, il se blesse. Et voilà que nous péchons. Et il est faux de dire qu'au nom de la miséricorde, il n'y a presque plus de péché. C'est hallucinant, c'est extraordinaire. Car où est le pardon s'il n'y a pas une offense? Et si Dieu pardonne systématiquement, sans même qu'il y ait le moindre repentir, et sans même le moindre effort pour arrêter de pécher, mais alors on se moque de Dieu. Ce qui est vrai, c'est que ce pauvre homme revient vers son père et il dit simplement « J'ai péché et je le reconnais. Je voudrais être au moins un employé dans ta ferme. » Il ne peut pas réparer. Il a dépensé tout son argent. Il a humilié son père. Et son frère le dit « C'est injuste. » Il devrait être puni. Et non seulement il n'est pas puni, mais il est rétabli dans ses droits. Et non seulement il est rétabli dans ses droits de fils, mais en plus, tu tues le veau gras, c'est-à-dire que tu fais un geste supérieur au fait de tuer un chevreau. Et moi, je ne te l'ai jamais réclamé cela. J'ai suivi ta justice constamment. J'ai été obéissant. J'ai suivi les 10 commandements. Et voilà que tu pardonnes simplement parce qu'il te demande pardon. Eh bien oui. Voyez-vous, le père Gabriel Grodzinski est un prêtre zélé. Je lui demande d'être présent et il est présent. Il vous propose même la confession dès 9h30. Eh bien, si vous n'avez pas le temps pendant la semaine de vous confesser, ce n'est pas une insulte extraordinaire à la Sainte Messe que vous preniez 5-7 minutes pour vous confesser. Et puis vous pouvez vous confesser après la messe. Mais c'est quoi se confesser? C'est s'humilier, c'est dire toute une série de petits péchés, j'ai été gourmand, j'ai été paresseux. Mais comprenez bien que le péché le plus fondamental, c'est d'être médiocre, c'est d'être dans une tiédeur en 2019 par rapport à l'existence de Dieu, par rapport à la prière, par rapport à la relation à Dieu. On a assommé les enfants avec l'évolutionnisme en vous disant que Dieu n'existe pas, que c'est des milliards d'années et que c'est par hasard qu'on a les yeux en face des trous et les oreilles sur les côtés. Et que par sélection naturelle, tous ceux qui avaient les yeux derrière sont tombés dans des trous ou se sont pris des arbres et ils sont tous morts. Que ceux qui avaient des branchies poumons étouffaient dans l'eau. Et que Dieu n'a rien à voir là-dedans, aucune intelligence créatrice. Et que vous avez des poissons avec des branchies, que nous avons des poumons, que nous avons des rétines, et tout ça par le pur hasard. Eh bien, c'est ça le plus grand péché, figurez-vous. Parce qu'on pourra se rendre compte qu'on est un porc, qu'on est un débauché, qu'on a détruit une famille, qu'on a mis la zizanie entre frères et sœurs pour de l'argent et pour autre chose. Mais il y a quelque chose qui nous sauvera si on est pécheur, c'est de croire que Dieu existe, c'est de croire que Dieu est notre Père, et d'en abuser. Mais le problème, ça serait une religion qui vous dirait que Dieu existe, que Dieu est notre Père, que Dieu est miséricordieux, mais que vous n'avez aucun effort à faire, ni à reconnaître vos fautes, et que vous pouvez continuer à pécher, parce qu'il est gentil. Donc, il nous faut, en ce début d'année, bien comprendre deux choses. D'une part, excusez-moi, mais c'est par la simplicité des sermons, dont de nombreuses années, qu'on finit par croire. Eh bien, Dieu existe. Dieu est un être intelligent et créateur. Dieu est un Père qui veille sur ses enfants, qui veille sur les anges et qui veille sur les êtres humains. Et il vous aime tous, un par un. Et il met tout son amour pour chacun d'entre vous, comme il a aimé Lucifer, et Lucifer l'a détesté. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais il nous demande d'abord de croire en lui et de lui parler. Est-ce que vous priez? Et est-ce que vous demandez à Dieu de prier? Seigneur, aide-moi à te parler. Aide-moi à prendre du temps pour te parler comme je parlerais à un être aimé, à mon père, à ma mère, à celui qui m'a donné la vie. Est-ce que nous prions en silence? Est-ce que nous croyons qu'il nous écoute? Et ensuite vient la morale. Ensuite viennent nos remords de conscience. Ensuite viennent nos difficultés d'aimer nos enfants, notre mari, nos voisins, nos frères, nos sœurs. Mais si on part de Dieu, alors nous pourrons avoir la patience de revenir sur nos fautes et d'être des instruments de paix. Alors le Fils obéissant, qui suit son devoir tout le temps, lui est un peu amer, parce qu'il voit des personnes qui apparemment ne priaient pas, faisaient le mal, et tout d'un coup, être pardonné par Dieu. Oui, mais il faut du repentir, il faut une conversion, il faut un certain changement de vie. Ne l'oublions pas. Et donc, prions les uns pour les autres, pour que nous puissions bien comprendre que si Dieu est amour, si Dieu est miséricordieux, et qu'il l'a prouvé par l'incarnation. Car il est des religions qui vous disent que Dieu est miséricordieux, mais qui sont sans pitié. Nous avons une religion, et la vraie religion, et le vrai Dieu qui s'est fait homme. La parole du Père a été crucifiée sur la croix. En ce 15 septembre, nous avons la mémoire de Notre-Dame des Douleurs. Dolores, dans les pays hispanophones, c'est le prénom qu'on donne pour la Vierge Marie aux sept douleurs. Eh bien, que toutes celles qui s'appellent Marie, toutes celles qui s'appellent Myriam, toutes celles qui s'appellent Dolores comprennent que la Vierge Marie, elle a vécu la mort du veau gras, le sacrifice de l'innocent. Elle a été au pied de la croix et elle sait ce que c'est que le péché alors qu'elle n'a jamais péché elle-même. Elle est en accord avec la volonté du Père. Elle accepte que le veau gras soit sacrifié parce que dans cette parabole, le Christ, c'est le veau gras. Il est sacrifié. Il donne sa vie pour le pécheur. Et la Vierge Marie, qui est la mère de cet enfant, de cet agneau de Dieu, de cet agneau immolé, accepte. Et c'est pour ça que c'est notre maman. Mais pour terminer, nous devons bien comprendre, puisque c'est notre mère, désignée par Dieu, désignée par son propre Fils, lorsque crucifié, il dit « Voici ta mère » à Saint Jean. Nous devons prier. Prier le chapelet, c'est automatique, c'est long, ou c'est « j'accroche pas aux paroles ». Mais la Vierge Marie n'a pas cessé de nous demander de prier le chapelet. Il y a peut-être un problème. Vous voyez bien que dans le synode sur l'Amazonie qui va venir en octobre, on vous parle d'écologie, on vous parle de marier, d'ordonner des hommes mariés, pour baisser la barre, pour que ça soit plus simple, pour qu'on ait plus de prêtres. Mais réfléchissez un instant. Jésus a donné sa vie. Les prêtres agissent et parlent au nom de Jésus, même s'il y a des monstres, même s'il y a des criminels parmi les prêtres, comme il y a des pompiers qui mettent le feu. Mais faisons bien attention, à force de baisser la barre, à prêtre debout, peuple assis, à prêtre assis, peuple couché, et à prêtre couché, peuple impie. Alors, soyons croyants, soyons déterminés à entrer en relation avec le Père, en priant le Notre Père. Je vous demande même d'apprendre par cœur la prière « Âme du Christ, sanctifie-moi » pour préparer ce synode où 250 évêques vont se réunir de tout le monde entier, pour que nous puissions nous approcher à la fois de la passion de Jésus, mais de l'espérance dans sa victoire sur le péché et sur la mort. Et demandons à la Vierge Marie, la Vierge fidèle, co-rédemptrice, de nous accompagner dans nos prières. Le chapelet, c'est pour ceux qui n'ont pas d'idée, mais c'est aussi pour ceux qui prient, mais pour leur donner l'occasion de prier dans la journée. C'est un conseil appuyé de Notre-Dame de Lourdes, de Notre-Dame de Fatima. Alors, écoutons le ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.